France Inter.
Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Après une journée sous tension, le blocus des étudiants pro-palestiniens de Sciences Po a été levé. Le soulagement au gouvernement, la France échappe à la sanction des agences de notation Fitch et Moody's. Les cas de dingue au plus haut en France, le moustique tigre, surveillé de très très près à Marseille, ville de la Marina Olympique. Des pièges sont en train d'être installés. Et puis ce sont des résistantes, les librairies indépendantes. Elles sont 650 en France et c'est leur fête aujourd'hui.
À 7h50, un nouveau venu au Rassemblement National, l'ancien chef adjoint de la BAC du Val-de-Marne, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires, attendu en position éligible sur la liste Rassemblement National aux élections européennes du 9 juin. Mathieu Vallet sera en studio avec nous.
France Inter. Les étudiants ont levé hier soir le blocage de Sciences Po Paris, Laurence.
Les locaux avaient été investis dans la nuit de jeudi à vendredi par des militants de la cause palestinienne. Ils réclamaient de leur direction des prises de position plus claires sur l'action israélienne dans Gaza, l'arrêt des partenariats avec les universités de l'État hébreu. Finalement, dans la soirée, un début d'accord a été trouvé. Les centaines de manifestants qui bloquaient la rue sont partis, tout comme la soixantaine d'étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de Sciences Po. Willy Moreau.
La soixantaine d'étudiants qui bloquaient le bâtiment sort sous les applaudissements. Un mail vient d'être envoyé. La direction accepte une assemblée d'ici jeudi prochain sur les différentes revendications.
Ce petit mail, il est énorme en fait finalement et ça leur a coûté des heures de négociation.
Tarrois, l'une des principales mobilisées.
Ce qu'on a obtenu, c'est une réunion avec au moins une partie de l'administration, les décideurs en fait. Et traiter justement nos demandes en fait.
Les jeunes dansent autour d'un immense drapeau palestinien, une effusion de joie mais une prudence également pour cet étudiant.
On n'a pas gagné, on verra quelles seront les suites des événements. Ce qu'on demande à Sciences Po, c'est qu'à la hauteur de ses moyens, elle mette en place des choses qu'elle avait mises en place par le passé sur d'autres conflits.
Des partenariats avec des universités russes ont été stoppés après la guerre en Ukraine notamment. Désormais, certains espèrent que le mouvement fera tache d'huile dans d'autres universités.
C'est l'objectif, c'est que ça fasse du bruit en France comme ça l'a fait aux États-Unis et en Irlande et en Angleterre. Il faut que ça le fasse en France aussi. Un mouvement plus homogène fait plus de bruit et aura beaucoup plus d'impact.
Un mouvement aussi politique avec une présence remarquée d'élus France Insoumise. Elle a été très apprécié par ses étudiants.
Willy Moreau. Les pourparlers de trêve entre Israël et le Hamas relancés, la contre-proposition israélienne est désormais entre les mains du mouvement islamiste palestinien. Les détails ne sont pas connus, mais les deux parties, on le sait, s'opposent, entre autres, sur un cessez-le-feu permanent ou une trêve voulue par Israël. Selon la presse israélienne, une vingtaine d'otages pourraient être libérés. Et puis ajoutons que l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 68 millions d'euros aux Palestiniens de Gaza. Les agences Moody's et Fitch maintiennent inchangée la note souveraine de la France malgré la dégradation des finances publiques du pays. On en reparle dans 10 minutes dans l'édito écho d'Alexandra Ben Saïd. Ce que vous avez fait, ce n'est pas un sondage. Emmanuel Macron a remercié hier soir celles et ceux qui ont participé à la Convention citoyenne sur l'accompagnement de la fin de vie. Il leur a présenté le projet de loi, largement inspiré de leurs travaux, qui sera examiné à l'Assemblée le mois prochain. Et dans un exercice de questions-réponses, il a défendu ses choix. Maxence Lambrecq.
Le micro a bien circulé.
Je me fais un petit peu provocateur. Est-ce que si on avait été 75% des conventionnels à être contre l'aide à mourir, est-ce que vous auriez suivi cette recommandation?
Je peux vous dire que je n'aurais pas engagé le travail gouvernemental qu'on a mené. Ça oui. Parce que vous auriez créé une situation qui rendait quasiment impossible le fait d'ouvrir ce chemin.
Deuxième question sur le consentement.
Qu'est-ce que vous faites des personnes qui, au fur et à mesure de la maladie, perdent leur capacité cognitive et ne peuvent plus prendre de décision? Est-ce que c'est la famille qui prend la décision? Comment ça se passe?
Si quelqu'un a perdu son consentement et n'avait pas ou exprimé dans des directives anticipées des choses, n'a pas réitéré avant de perdre son consentement, eh bien il ne pourra pas être éligible à l'aide à mourir.
Sauf si les parlementaires en décident autrement, ajoute-t-il prudemment. Il relativise l'opposition des professionnels des soins palliatifs.
Ces derniers sont beaucoup plus nuancés qu'on ne veut parfois le dire dans le débat public et j'ai pu, en me rendant moi-même dans plusieurs de ces services, constater qu'ils exprimaient eux-mêmes le besoin de répondre à ces cas.
Des opposants à ses yeux moins nombreux qu'on ne le dit. Sans fixer de date, il donne rendez-vous aux 184 conventionnels pour la promulgation de la loi.
Maxence Lambrecq. Des produits dangereux pour la santé, écoulés comme un trafic de drogue. Le réseau vendait clandestinement des produits anabolisants à destination de culturistes depuis 4 ans. Le principal suspect dans cette affaire est un Français qui vivait en Espagne. Il a été interpellé il y a 2 semaines et il devra s'expliquer aujourd'hui devant un juge avant sa mise en examen. Grissel.
Au moment de son interpellation, cet homme d'une cinquantaine d'années, lui-même ancien culturiste, vivait dans une luxueuse maison près d'Alicante, 300 mètres carrés, décrit comme très protégé. Il faut dire que le réseau qu'il est soupçonné d'avoir géré n'avait rien à envier aux trafiquants de drogue, une organisation à l'échelle internationale.
C'est des produits dont on a déterminé qu'ils étaient pour la plupart fabriqués dans les pays de l'Est.
Le lieutenant-colonel Thierry Cassagne dirige à la section de recherche de Marseille le détachement de Fréjus, chargé de cette enquête.
Les livraisons se faisaient par voie postale essentiellement et en contrepartie, le client envoyait des sommes en espèces ou inversement en fonction du degré de confiance qui existait entre ces individus.
La publicité pour ces produits était faite par les réseaux sociaux ou le bouche à oreille jusque dans les salles de sport. Les gendarmes sont alertés début 2023. Au fil de leurs investigations en lien avec leurs homologues espagnols, ils retrouvent pour plus de 360 000 euros de produits interdits car dangereux.
Des problématiques d'infertilité, des problèmes musculaires et tendineux, des problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle, des risques d'AVC, ça peut aussi être des lésions au niveau du foie.
9 autres personnes ont été interpellées en France dans le cadre de cette enquête. L'homme soupçonné d'être à la tête de ce réseau, celui qui vivait en Espagne, a lui déjà été condamné il y a quelques années pour des faits similaires.
7h37, il est dangereux lui aussi pour la santé, c'est le moustique tigre.
Et il fait l'objet de toutes les attentions en vue des Jeux Olympiques, car à 3 mois d'IGO, comment éviter que l'insecte ne vienne gâcher la fête? Car il se propage désormais partout en France, il véhicule des maladies comme la dengue. 45 cas autochtones transmis par le moustique tigre recensés l'an dernier dans l'Hexagone selon Santé publique France. Alors pour protéger les athlètes et les spectateurs bien sûr pendant les JO, la ville de Marseille a fait installer des pièges sur le site de la Marina Olympique où vont se dérouler les épreuves de voile, Mathilde Vinceneux.
15 pièges sont répartis sur une surface d'un hectare. Antoine Cohen est responsable technique pour Biogent, la société qui a remporté l'appel d'offres de la mairie de Marseille pour protéger la Marina Olympique.
Alors les pièges, ils sont protégés dans des caissons pour éviter tout risque de vandalisme ou même d'accident. Ils fonctionnent sur des panneaux solaires. C'est des pièges qui vont donc reproduire les odeurs et les flux d'air du corps humain pour attirer le moustique et les capturer.
Il n'y a donc pas d'insecticides dans ces pièges, seulement des odeurs. La mairie espère ainsi limiter la transmission de maladies alors que les JO vont attirer des visiteurs du monde entier. Les moustiques tigres pourraient transporter le Zika ou encore la dengue.
La dengue cette année est particulièrement préoccupante puisqu'il y a une épidémie importante en Amérique du Sud et dans les Antilles.
Grégory Lambert est entomologiste médical à l'EID, l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.
Même si on a un réseau de pièges qui est bien installé, on ne peut pas non plus garantir l'absence totale de risque de transmission locale. Nos moustiques sont capables de se multiplier par 200 tous les 15 jours.
Pour lutter, il faut donc surtout empêcher qu'ils ne se reproduisent, faire la chasse à l'eau stagnante dans les jardins, les balcons. Quelques millimètres suffisent pour que des larves se développent.
On évoquait la Marina Olympique des JO, et bien à chercher la flamme. Elle sera ce matin à 9h30 à bord du 3 mois, le Belém, pour rejoindre Marseille le 8 mai avant d'entamer ensuite son long voyage à travers la France. Hier en Grèce, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, a annoncé que le nageur Florent Manoudou sera le premier porteur de la flamme olympique à son arrivée dans la cité phocéenne. Et aujourd'hui, on célèbre les librairies indépendantes des résistantes à l'heure de la concurrence d'Amazon et des grandes enseignes telles la Fnac, Leclerc Culturel, etc. Pour l'occasion, chaque librairie indépendante offrira à ses clients une rose ou un livre de poésie, une façon de remercier ses clients qui soutiennent les commerces de proximité. Jules Hausse de France Bleu, Belfort-Montbéliard.
J'achète pas mes livres à la Fnac.
Roselyne est une habituée des petites librairies.
C'est important, puis un libraire, c'est pas un épicier, c'est un libraire. Je connais les livres. Ça fait partie du lien. La libraire est une amie aussi. On est amis par les livres.
Son amie, c'est Caroline de la librairie jeunesse La Marmite à mots à Belfort. Depuis 12 ans, elle noue ses relations très particulières avec les lecteurs.
Je pense aux clients qui sont passés ce matin. C'est des enfants qu'on voit grandir, c'est des enfants qu'on accompagne, c'est aussi des parents qu'on accompagne. Oui, il y a des choses qui se nouent et qui, pour moi, peuvent forcément se nouer dans des lieux beaucoup plus gros, en fait.
C'est justement ce côté chaleureux que cherche Soumia, 20 ans. Elle a découvert par hasard la librairie du Chaborgne à Belfort.
Je trouve que c'est plus humain en fait. Il y a souvent une sélection avec des petits post-it et tout et j'aime bien les avis comme ça.
Les lecteurs deviennent aussi prescripteurs.
Caroline Gély est la gérante de la librairie.
Si un polar vous a empêché de dormir pendant 3 nuits, mettez ça sur le livre parce que ça va le faire ressortir. Et c'est ça aussi une librairie indépendante, c'est pas un algorithme. L'algorithme, c'est l'humain, donc ça veut dire une diversité de choix géniale.
Une diversité célébrée ce samedi dans toutes les librairies indépendantes de France.
Il va falloir être patient, une semaine déjà que l'autoroute A13 au port de Paris est fermée dans les deux sens, entre la capitale et Vaucresson, à cause d'un mouvement de terrain et d'une fissure importante. Eh bien, la fermeture est prolongée. L'A13 ne rouvrira pas comme prévu à la circulation le 1er mai.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, la France pas si mal notée en économie, c'est dans l'édito Écho. Et notre astronaute française, portrait dans la chronique, on va en reparler.